Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans mensaux proposée par Michel Lafond. Et cette semaine, eh bien, il y a 9 voire 10 nouveautés sur les écrans mensaux. Enquête sur un scandale d'État, Mort sur le Nil, The Innocence, Vous ne désirez que moi, Moonfall, Whitesnake, Les Vedettes, Marry Me, Boulado et... On n'aura pas le temps d'en parler, un film pour les enfants, un film d'animation, Jean-Michel Le Caribou et les histoires d'amour interdites. Voilà pour ce qui est des nouveautés sur les écrans mensaux. Pour la programmation musicale, eh bien, je suis allé picorer un petit peu partout. Et on va commencer par quelque chose que vous connaissez forcément. Et dès les premières notes, vous allez reconnaître, si vous êtes un peu vieux évidemment, si vous avez moins de 50 ans, c'est possible que ça ne vous dise rien du tout. Et pourtant, ce titre, on l'entend. Au tout début du film, Vous ne désirez que moi. Et là, c'est sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage. Sachant, tu diras non. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. De mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas.
Et oui, Capri, c'est fini. Hervé Villard, on entend ce titre sur le générique de début du film. Vous ne désirez que moi. On en parle dans un petit quart d'heure de Vous ne désirez que moi. On commence notre semaine cinématographique avec Enquête sur un scandale d'État, un film proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. C'est un film français de Thierry de Peretti, acteur, réalisateur, scénariste. Il a à son actif un moyen métrage et puis en 2013, le premier long métrage Les Apaches et en 2017 Une vie violente. Le film Enquête sur un scandale d'État dure 2h03. Il est avec Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon. Octobre 2015, les douanes françaises saisissent 7 tonnes de cannabis en plein cœur de la capitale. Le jour même, un ancien infiltré des stupes, Hubert Antoine, contacte Stéphane Wilner, journaliste, jeune journaliste à Libération. Il prétend pouvoir démontrer l'existence d'un trafic d'État dirigé par Jacques Billard, un haut gradé de la police française. D'abord méfiant, Stéphane finit par plonger dans une enquête qui le mènera jusqu'aux recoins les plus sombres de la République. Voilà pour le synopsis. La revue de presse, comme il se doit, Thomas Borès dans Ouest France parle d'une complète réussite à propos de ce film. Simon Rio dans Écran large, quand il aborde l'un des plus sidérants scandales policiers de ces dernières décennies, Thierry de Peretti se garde bien d'en livrer une interprétation simple, cherchant au contraire à restituer les doutes et la complexité d'une enquête inachevée aux innombrables facettes. Un film impur, troublant, aussi intelligent que fascinant. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, le film suit cet indic filou aux nombreuses zones d'ombre, Roche-Dizem est génial, sans jamais chercher à les élucider, les zones d'ombre bien sûr. Un choix pertinent relayé par une mise en scène au cordeau, sèche et épurée, qui permet au film d'éviter le piège de la simple chronique politico-judiciaire. Frédéric Mercier, positif, ce film confirme l'immense talent de raconteur d'histoire de son auteur. Son auteur, je le rappelle, c'est Thierry de Peretti. Isabelle Magnette et les 7 jours, un récit passionnant à la croisée du thriller politique et du film dossier. Télérama Jacques Maurice, de la complexité, du vertige, du vide aussi, mission privée de sens, homme fuyant dans le travail, voilà ce qui fait le prix de cette fresque haletante, à la fois très réaliste, par exemple sur l'élaboration de la une à Libération, et abstraite, conceptuelle même. Olivier de Bruyne des Échos, Thierry de Peretti s'inspire de faits réels pour mettre en scène un film de genre ambitieux, sur fond de trafic de drogue, troublant, mais inégal. Voilà, ça s'appelle Enquête sur un scandale d'État, ça dure 2 heures, c'est proposé par les cinéastes, avec, ma foi, 2 séances par jour. Voilà. Alors, le défaut du film, et ce défaut quand même est important pour moi en tous les cas, c'est que à l'inverse de l'enquête qui avait été menée par un des magazines de France 2, alors je sais pas si c'est complément d'enquête ou Cache Investigation ou Envoyé Spécial, enfin, un de ces magazines-là, eh bien, à l'inverse de l'enquête avait été menée par un de ces magazines sur cette affaire, il ne fait rien, ce film ne fait rien pour rendre cette enquête facile à comprendre, bien au contraire, et c'est un petit peu dommage, voilà. Alors certes, sans doute pour des raisons juridiques, il est précisé au début du film que le film est inspiré d'eux, et que toute ressemblance, vous connaissez la formule, avec des personnes, des faits rapportés serait fortuite, mais personne n'est dupe, donc il s'agit ici de traiter de façon très documentée, ça c'est clair, l'affaire de cet homme infiltré dans les plus grands cartels de la drogue et informateur de la police française qui, lâché par celle-ci, révéla à un journaliste de Libé les compromissions du patron des stupes français qui, pour faire du chiffre et coincer certains trafiquants, en a laissé agir d'autres, voire même participer au trafic lui-même. Alors, position évidemment très ambiguë, puisque dépassant largement la ligne jaune allègrement franchie par ce grand flic. Alors les points forts du film, parce que quand même ce sont les points forts qui l'emportent dans le film, sont, alors outre la remarquable interprétation du trio d'acteurs principaux que je vous ai évoqué au tout début, eh bien les points forts c'est la reconstitution des différentes atmosphères, par exemple bien celle de la salle de rédaction de Libération, avec les questionnements des journalistes, si on sort l'affaire, comment, avec quel risque. Autre point fort, bien entendu, les conversations entre les protagonistes et toutes les questions que ces conversations posent. Voilà, attention. En aucun cas, il s'agit d'un film d'action. Hein, c'est plutôt un film d'investigation. C'est plutôt dans la lignée de films comme Spotlight, Les Hommes du Président, un petit peu, voilà, ça, plutôt que du pur film d'action. L'accent est mis essentiellement sur l'enquête journalistique, les tenants et aboutissants de l'affaire, la déontologie des uns et des autres, le franchissement des lignes de conduite. Et la question de la fin justifie-t-elle toujours les moyens, et en tous les cas tous les moyens? Comment lutte-t-on contre le trafic de drogue, sachant qu'il est colossal et impossible à réellement éradiquer? Et puis c'est également le portrait de 3 hommes, donc ce flic, ce grand flic, cet infiltré et ce journaliste. Donc c'est un film intéressant, sans aucun doute, par toutes les questions qu'il soulève, mais qui ne fait vraiment rien pour séduire, en restant très technique, très complexe, très bavard même, si la mise en scène est quand même remarquable. Donc, c'est un film, pour ceux qui sont des purs amateurs de polar, ça n'est pas vraiment fait pour eux, il n'y a pas du tout d'action, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions. Des scènes aussi qui peuvent paraître, d'ailleurs, souvent totalement superflues, mais qui sont là pour montrer que, eh bien, il y a une amitié qui se crée entre l'infiltré et le journaliste. Voilà, c'est des scènes, par exemple, dans des boîtes de nuit ou dans des bars, qui peuvent être coupées au montage, ça change rien à la compréhension de l'histoire, mais qui sont là pour montrer, donc, ces liens entre ces différents personnages. Voilà, ça s'appelle Enquête sur un scandale d'État et c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes. Mort sur le Nil. Alors là, c'est pas au cinéaste, c'est au Colisée, au Pâté Quinconce, au Méga CGR. Sachant qu'au Colisée et au Pâté Quinconce, il y a au moins une séance par jour en version originale pour ce film, donc, de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, c'est un réalisateur, scénariste, mais aussi acteur, producteur. Il est né en 60, en Grande-Bretagne. On l'a découvert en tant que réalisateur avec Henri V, l'adaptation de, du drame de Shakespeare, Henri V, et donc Kenneth Branagh joue lui-même dans Henri V, puisqu'il joue Henri V. 92, Dead Again, avec Emma Thompson, qui à l'époque était sa compagne, et donc lui-même, mais il y a aussi Andy Garcia dans le film. 93, Les Amis de Peter, avec Stephen Fry et Emma Thompson. 93, nouvelle adaptation de Shakespeare, Beaucoup de bruit pour rien, un remarquable film avec Emma Thompson, Keanu Reeves et Kenneth Branagh. 95, un Frankenstein avec Robert De Niro. 95, Au beau milieu de l'hiver avec John Collins. De 97, on continue avec les adaptations de Hamlet, de Shakespeare, pardon, avec Hamlet et Richard Attenborough et Kenneth Branagh. 2001, Peine d'amour perdue, ben c'est toujours du Shakespeare, hein, avec Alicia Silverstone, c'était remarquable ça aussi. 2006, La flûte enchantée, alors ça c'est pas Shakespeare, c'est Mozart. 2008, Le limier avec Jude Law, Michael Caine. 2011, Thor avec Chris Hemsworth, Natalie Portman, Anthony Hopkins. 2014, The Ryan Initiative avec Chris Pine, Kevin Costner, Keira Knightley. 2015, Cendrillon avec Lily James. 2017, Le crime de l'Orient Express avec Johnny Depp, Michelle Pfeiffer et bien entendu Kenneth Branagh. 2019, All is True avec Ian McKellen, mais ça c'est directement envoyé en VOD. Et en 2010, ça c'est pour Disney+, Artemis Fowl avec Colin Farrell. Donc vous voyez une belle filmographie de Kenneth Branagh. Le film 2h07, au cours d'une luxueuse croisière sur le Nil, ce qui devait être une lune de miel idyllique, se conclut par la mort brutale de la jeune mariée. Ce crime sonne la fin des vacances pour le détective Hercule Poirot. À bord, en tant que passager, il se voit confier l'enquête par le capitaine du bateau. Et dans cette sombre affaire d'amour obsessionnel aux conséquences meurtrières, ce ne sont pas les suspects qui manquent. S'en suivent une série de rebondissements et de retournements de situation qui, sur fond de paysages grandioses, vont peu à peu déstabiliser les certitudes de chacun jusqu'à l'incroyable dénouement. Alors, la revue de presse, bien entendu, très très partagée. 20 minutes, Caroline Vier. Il ne fait aucun doute que Kenneth Branagh adore l'œuvre d'Agatha Christie. Son enthousiasme se communique à ses acteurs et à la somptueuse reconstitution de l'Égypte. Le spectateur n'a qu'à se laisser emporter sur le fleuve pour revivre un classique de la littérature policière qui dépayse allègrement. Jean-Luc Van Stausen, dans Le Point, difficile de ne pas embarquer dans cette croisière agitée. Corinne Renoud-Nativelle-Lacroix, même s'il abuse quelque peu des levées de soleil dans une lumière dorée, le spectacle, qui ne lésine pas sur les moyens, impressionne indéniablement. Adrien Gombeau, Les Échos, pour la seconde fois, Kenneth Branagh adapte à Agatha Christie et endosse le rôle du grand détective. Si son interprétation ne manque pas de charme, sa réalisation paraît disproportionnée en regard du livre original. Marie Sauvion, dans Télérama, sauf allergie sévère au pudding numérique, auquel cas le coma est garanti, ce croisement anachronique entre Mort sur le Nil et Dirty Dancing peut amuser. Oui, alors, Dirty Dancing, vous comprendrez l'allusion quand vous irez voir le film, parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire de Dirty Dancing, mais il y a quelque chose qui rappelle forcément Dirty Dancing pour ceux qui l'ont vu. Néo Ribeton, Les Irrecuptibles. Branagh se place au centre de la mode et ne rate certes pas tout, mais occupe la place avec une bourrinerie rehaussée de sucre qui serait difficilement du goût de la romancière. Elisabeth Franck-Dumas dans Libération, indigeste pudding, gavé de pyramides de synthèse, de monuments en carton-pâte et d'envols de caméras démonstratifs et vibrillonnants, le navrant Mort sur le Nil de Kenneth Branagh est bien décidé à sortir Agatha Christie de son univers gentiment suranné et ronronnant pour la propulser dans la galaxie LED et clinquante des franchises. Voilà, donc vous voyez, très partagé, ce Mort sur le Nil de Kenneth Branagh, proposé par le Colisée, le Méga CGR et le Pâté Quinconce. Au Méga CGR, pas de version originale, que de la version française. Au Pâté Quinconce, au Colisée, au moins une séance par jour en version originale. Donc Lynette, c'est une riche héritière qui vient d'épouser le fiancé de sa meilleure amie, et oui, et qui part en croisière de noces sur le Nil, entourée de quelques familiers. Alors ces familiers, c'est des membres de sa famille ou bien des pièces rapportées, ou le personnel qui est à son service, des assistants, des gens comme ça, voilà, ou des comptables. Tout ce beau monde a plus ou moins des raisons de vouloir l'assassiner, et quand cela arrive, eh bien c'est un Hercule Poirot invité de la croisière, de démêler les fils de l'intrigue pour désigner le coupable. Voilà, c'est une nouvelle aventure du célèbre détective belge, Mort sur le Nil, c'est un classique du whodunit. Alors, le whodunit, c'est quoi? C'est qui a fait le coup? Voilà. Donc, on se retrouve en terrain parfaitement connu, un meurtre et une enquête. Alors, c'est divertissant, mais sans plus. C'est mis en scène avec luxe. Alors, merci des effets numériques, hein, parce que rien n'a été tourné en Égypte, tout a été tourné en studio. C'est un peu long. Le crime n'advient quand même qu'au bout d'une heure. Il y a même un prologue situé durant la guerre de 14-18 qui est là pour donner de l'épaisseur au personnage d'Hercule Poirot, mais qui est parfaitement inutile. On le coupe, ça fait 10 minutes en moins, et ça change rien au film, avec, comme il se doit, bien entendu, dans ce genre de film, de nombreux rebondissements jusqu'à la révélation du coupable par Poirot suite à une de ses célèbres successions de déductions faisant entrer en branle ses petites cellules grises à partir d'indices que lui seul a su observer et qui lui permettent d'aboutir donc à dévoiler qui est le coupable. Alors Kenneth Branagh s'amuse assurément à jouer Poirot. Alors quand on voit le film en version originale, il est en anglais bien entendu, avec l'accent français, superbe accent français. Le spectateur suit l'affaire sans grande passion, sauf à être vraiment un grand fan du genre. Bon, ça peut se voir, hein, mais la sortie a été repoussée à plusieurs reprises pour cause de Covid. Il serait sorti directement en VOD. Je ne pense pas que ça aurait beaucoup nuit à sa carrière parce que c'est quand même pas extrêmement remarquable. Voilà. Bon, pour les amateurs de ce genre de film, parfois c'est correct. Et puis il y a des bons acteurs. Il y a notamment, donc je l'ai dit, Kenneth Branagh, mais il y a aussi la sublimissime, en tous les cas, sculpturale Gal Gadot, qui était pas Superwoman. Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelle. Wonder Woman. Oui, je ne sais plus. Enfin, une des héroïnes. De super héroïne. Voilà. The Innocence, c'est interdit moins de 12 ans, c'est proposé par le cinéma Les Cinéastes avec une séance par jour. C'est un film de Eskil Vogt, c'est un réalisateur dont c'est, je crois, le deuxième long métrage. Il avait réalisé en 2014 Blind, un rêve éveillé. Auparavant, un court métrage. Il est de nationalité norvégienne. Il est réalisateur, scénariste, producteur. Il n'est pas très très vieux, mais il n'est pas non plus très très jeune. Il est en 74. On est en été, et un été, quatre enfants se découvrent d'étonnants pouvoirs et jouent à tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semble être un jeu d'enfant prend peu à peu une tournure inquiétante. Voilà, donc, le synopsis. Geoffrey Crété dans Écran large, grand film magique sur les petits cauchemars de l'enfance et donc de la vie. The Innocence, c'est une merveille qui sonde les ténèbres pour mieux y retrouver un peu de lumière. La rédaction du Parisien, une éblouissante réussite à mettre notamment à l'actif des impressionnants jeunes comédiens dont le talent crève déjà l'écran. Thierry Chaise dans West France parle d'une réussite totale. Caroline Vier dans 20 minutes, The Innocence, au titre ironique, en fait une démonstration glaçante, laissant le public dans un état de sidération, constitue un critère solide pour identifier un excellent film. Olivier Delcroix, Le Figaro, consacré au festival de Gérard Mer. Festival Gérard Mer, c'est le festival spécialisé dans le cinéma fantastique. Voilà. Le réalisateur norvégien réussit avec The Innocence, une fable surnaturelle, mettant en scène des enfants doués de pouvoirs inquiétants. Philippe Rouillet dans Positif, c'est le film le plus effrayant que j'ai vu depuis plusieurs années. C'est Philippe Rouillet qui parle, hein. Sans doute parce qu'avant d'être un film d'horreur, c'est un film sur l'enfance. Jean-François Roger, Le Monde, l'alliage d'irrationnel et de réalisme social est particulièrement réussi grâce à une progression dramatique, implacable et riche en surprises. Oui, mais Camille Nevers dans Libération, énième variation autour des enfants monstrueux, le film d'Eskil Vogt ne propose qu'une horreur sans aspérité. Et Ludovic Béot dans Les Inoccupables, The Innocence devient alors un fourre-tout théorique où tous les commentaires s'empilent et annulent le précédent, quitte au final à ne plus dire grand-chose. Je n'ai pas vu The Innocence. Sachez que c'est interdit aux moins de 12 ans, que c'est proposé par les cinéastes avec une séance par jour. Voilà. Bien, tout à l'heure, on va parler de Moonfall. Eh bien, dans Moonfall, on entend sur le jingle de fin cette chanson One More Time. Ça n'a rien à voir avec David Guetta. One More Time, c'est pas David Guetta que j'ai dit, David Guetta ou Daft Punk, je ne sais plus lequel des deux, enfin peu importe. One More Time, Lucas Closer, c'est le titre qu'on entend sur le générique de fin du film Moonfall sur Radio Alpa 107.3 FM. Boring, breathing in someone's air. One touch, take a hit, now you're floating. Lucas Klauser, One More Time, un titre que l'on entend sur le générique de fin de Moonfall. Eh bien, j'ai vérifié, mais vous le saviez quand même, One More Time, c'est Daft Punk, bien sûr. Vous ne désirez que moi, c'est un film proposé par les cinéastes, un film de la réalisatrice Claire Simon. Ce film a droit à 2 séances par jour, et sachez que samedi, à la séance de 20h, eh bien, Swan Harlow viendra certainement après le film discuter avec les spectateurs qui voudront bien venir à la séance samedi 12 à 20h. Alors, vous ne désirez que moi Claire Simon. Claire Simon, c'est une réalisatrice scénariste, directrice de la photo née en 55. Elle a alterné dans sa carrière des films de fiction et des films documentaires. Alors, je vous en cite quelques-uns parce qu'elle en a quand même pas mal à son actif. Elle commence en 80 avec « Tandis que j'agonise ». Puis, 81, un documentaire, Moi non, ou L'âge de Patricia. Ensuite, 82, Mon cher Simon, documentaire. Enfin, beaucoup de documentaires. Et puis, ça et là, quelques films de fiction, comme par exemple, en 2006, Ça brûle, avec Gilbert Melki. Les bureaux de Dieu, avec Anne Alvaro, Nathalie Baye, Michel Boudjena. C'était sur le thème de l'avortement, ça, je me rappelle. 2013, Gare du Nord, avec Nicole Garcia, Reda Kateb, François Damiens. Et puis, les derniers documentaires de Claire Simon, qui ont été la plupart du temps proposés au cinéaste. Eh bien, en 2017, Le Concours. 2018, Première Solitude. Et 2021, Le Fils de l'épicière, Le Maire, Le Village et Le Monde. Voilà. Vous ne désirez que moi, compagnon de Marguerite Duras depuis 2 ans, Yann Andrea, éprouve le besoin de parler. Sa relation passionnelle avec l'écrivaine ne lui laisse plus aucune liberté, et il doit mettre les mots sur ce qui l'enchante et le torture. Il demande à une amie journaliste de l'interviewer pour y voir plus clair. Il va décrire avec lucidité et sincérité la complexité de son histoire, leur amour et les injonctions auxquelles il est soumis, celles que les femmes endurent depuis des millénaires. François Delbecq dans Elle déclare que Swan Harlow impressionne du début à la fin. Joupine. Jérôme Garcin dans L'Obs, tourné en huis clos, temps réel et de longs plans séquences par une Claire Simon qui a relevé ce défi impossible, faire d'une interview un film dramatique, à la fois théâtral et poignant. La confession de Yann Swan est avant tout un pur moment de cinéma. Bernard Genin dans Positif, ce qui se joue là nous dépasse, dépasse même les acteurs. On touche du doigt une sorte de transe à deux. Sophie Joubert dans L'Humanité, insérant des images d'archives, par exemple un extrait d'India Song, des entretiens, un extrait saisissant du tournage de L'Homme Atlantique, et des dessins qui représentent les scènes de sexe. Elle invente un objet, elle, c'est Claire Simon, invente un objet hybride qui reste fidèle au réel tout en s'autorisant des pas de côté. À travers cette histoire, elle questionne toutes les formes de domination et de violence dans le couple habituellement subies par les femmes. Jean-Claude Raspienjas la croit, par les intonations et modulations subtiles de sa voix, la lucidité et la sincérité, Swann Harlow compose un magnifique personnage prisonnier volontaire d'une passion mortifère qu'il ne maîtrise pas, dont il a conscience des dangers, mais qu'il revendique néanmoins. Thierry Chaise en première, Claire Simon semble aussi ne pas savoir que faire du personnage de Michel Manceau, lui rajoutant des scènes inutiles hors de leur face-à-face, mais elle réussit pourtant son pari, grâce à la composition impressionnante de Swann Harlow, mais aussi à la manière inventive dont elle réussit à faire vivre, hors cadre, la figure de Duras. Éric Neuhoff dans le Figaro, alors là, il sort la sulfateuse, hein. Les banalités s'enchaînent sur un ton assez docte, Swann Harlow s'en tire comme il peut, Emmanuel Duvos ne fait rien, Duras, elle, reste au rez-de-chaussée, elle a bien raison. Voilà, donc, vous ne direz que moi. Proposé par le cinéma Les Cinéastes, avec deux séances par jour, sauf samedi à 20h, la séance sera suivie par un débat, probablement, avec la présence de Swann Harlow, qui viendra défendre ce film. Alors, à coup sûr, les admirateurs de Marguerite Duras, dont je ne fais pas du tout partie d'ailleurs, seront probablement passionnés par ce film qui évoque sa relation avec son dernier amant, Yann Andrea, abordé d'ailleurs du point de vue de ce dernier à travers une longue interview qu'il donna à la journaliste Michel Manceau, qui recueillit ses paroles sur cassette audio et dont le film est la retranscription visuelle. Alors, le dispositif de mise en scène est simple. Deux interviews en face à face, la caméra passant de l'un à l'autre, s'il n'y a pas de champ contre champ, la caméra passe de l'un à l'autre, dans une sorte de quasi huis clos, en temps réel, entrecoupé de quelques flashbacks, comme par exemple des apparitions de Marguerite Duras dans des making-of de ses films ou des interviews. Et puis il y a également des dessins érotiques qui sont insérés entre certains moments de cette interview. On a des échanges intenses en plan séquence. Donc le film se penche donc sur cette relation quand même très particulière entre Yann Andrea. Yann Andrea, c'est un jeune étudiant en philosophie qui est tombé en admiration de l'œuvre de Marguerite Duras. Leur relation a longtemps été épistolaire et puis ils se rencontrent après plusieurs années et leur histoire d'amour-passion singulière commence à ce moment-là. Et l'autrice Marguerite Duras donc mène la danse dans un rapport de domination, manipulation, humiliation du garçon homosexuel jusqu'alors. Une identité sexuelle d'ailleurs vomie par Marguerite Duras, c'est l'un des nombreux paradoxes de ce film, de cette histoire qui est quand même une histoire hors du commun. Évidemment, il faut aimer l'œuvre de Duras pour véritablement s'intéresser au film. Moi, je dois reconnaître que je n'ai vu que certains films de Marguerite Duras qui font partie d'ailleurs de mes pires expériences cinématographiques, hein. Je me rappelle avoir vu India Song et puis d'autres, un truc qui s'appelait Nathalie Granger, je crois. C'était cauchemardesque pour moi. C'est des films où on est presque envie de sortir parce qu'il se passe pas grand-chose, en fait. Bon, mais moi, j'aime pas ce genre de film. Hein. C'est un film, donc, vous ne désirez que moi, qui est très introspectif et qui interroge cette étrange relation. Alors, certes, ça n'est pas un cinéma que j'apprécie, mais je reconnais, alors sans difficulté, son intérêt pour la petite chapelle de fans, la petite ou grande chapelle d'ailleurs de fans de l'auteur, de l'amant. Hein. Swann Harlow est remarquable dans son interprétation confession de Yann Andrea, cet homme sous emprise volontaire, vivant une situation très particulière. C'est un film austère pour un public exigeant, un public qu'on pourrait dire déjà conquis à l'avance. C'est pas un film que je recommanderais à quelqu'un qui ne saurait pas quoi voir cette semaine. Bon, mais si vous êtes fan de Duras, franchement, ça me paraît indispensable comme film. Voilà. Ce qui me paraît pas indispensable, c'est celui dont je vais vous parler maintenant. C'est Moonfall. Moonfall, c'est un film de Roland Emmerich. C'est proposé au Colisée, au Méga CGR, au Pathé Quinconce. Colisée et Méga CGR, il doit y avoir une séance par jour en VO. Pas toujours, pas forcément d'ailleurs. Le Pathé n'a peut-être pas forcément une séance par jour en VO. C'est un film donc de Roland Emmerich, réalisateur, scénariste, producteur allemand, né en 55, ben, comme Claire Simon, voilà. Il y a beaucoup de gens très bien qui sont nés cette année-là, en 1955. Il a commencé par le court-métrage et puis ensuite ben, des longs-métrages, certains inédits. Par exemple, en 84, Le principe de l'Arche de Noé, ça me dit rien du tout. 85, Joey. 87 Hollywood Monster, ça c'est pas certain que ces films aient été distribués en France. Et puis, ce qui est sûr, c'est que 92 Universal Soldier avec Jean-Claude Van Damme et Dolph Lundgren là a été distribué parce que je me rappelle l'avoir vu. 94 Stargate, la porte des étoiles avec Kurt Russell, James Spader. 96 Independence Day avec Will Smith, Jeff Goldblum. 98 Godzilla avec Jean Reno, Matthew Broderick. 2000, The Patriot, Le Chemin de la Liberté avec Mel Gibson. 2004, Le Jour d'après avec Jake Gyllenhaal et Dennis Quaid. Lui, en 2008, 10 000. En 2009, 2012, avec John Cusack, Chiwetel Ejiofor. 2011, Anonymous avec Rice Ifans et Vanessa Hargrave. 2013, White House Down avec Channing Tatum, Jamie Foxx. 2016, Independence Day, Résurgence. Et 2019, Midway. Vous voyez que ce brave Roland Emmerich fait pas trop dans le film intimiste. Eh bien, c'est toujours le cas avec Moonfall, film qui dure 2 heures. Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et la précipite vers la Terre. L'impact aura lieu dans quelques semaines, impliquant l'anéantissement de toute vie sur notre planète. Joe Fowler, ancien astronaute qui travaille pour la NASA, est convaincu de détenir la solution pour tous nous sauver, mais seules 2 personnes la croient. Un astronaute qu'elle a connu autrefois, Brian Harper, et un théoricien du complot, Casey Houseman. Ces 3 improbables héros vont tenter une mission impossible dans l'espace et découvrir que notre Lune n'est pas ce que nous croyons. Caroline Vier, dans 20 minutes, extrêmement bienveillante. Roland Emmerich s'amuse toujours autant à tout casser et on a l'impression d'être invité chez lui pour partager ses jouets. Moonfall n'a pas d'autre ambition que cela, mais la remplit parfaitement. Stéphanie Belpech, dans le journal du dimanche. Un divertissement totalement décomplexé qui ne se préoccupe ni de cohérence ni de vraisemblance. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Sylvestre Picard, première, l'aventure terrestre est trop mollassonne et celle dans l'espace est trop absurde. La combinaison des deux ne fonctionne pas vraiment. Moonfall souffre en somme d'un problème d'échelle. S'il y avait que ça. Olivier Delcroix, Le Figaro, à l'arrivée, Moonfall s'apparente à une sorte de grand barnum creux, comme une coquille cinématographique vide de sens, qui ressemble plus à un spectacle de marionnettes avec des gros effets spéciaux qu'à un film digne de ce nom. Philippe Gage dans Le Point, le réalisateur d'Independence Day, organise dans son dernier forfait un rendez-vous entre la Terre et la Lune, apocalyptique et désastreux à plus d'un titre. Et oui, Moonfall, je l'ai vu, j'aurais pu ne pas le voir, ça aurait été aussi bien. C'est un film type blockbuster, avec le sous-genre film catastrophe, qui pourrait prétendre obtenir l'Oscar du film le plus invraisemblable si cet Oscar existait. En tous les cas, il sera probablement nommé aux Razzie Awards, qui sont les contre-Oscars ou les Oscars des pires films de l'année. Ça, je pense qu'il aura droit à quelques nominations. Dans le genre film catastrophe, je ne sais pas si on a déjà fait aussi débile. Voilà, à ce niveau-là, cela confine même au grandiose. Alors, on ne sauvera donc du film que les effets spéciaux, et encore, parce qu'aucun n'est vraiment inédit. Alors sachez que l'argument de départ est ultra simple. La Lune a quitté son orbite, pour une raison que je vous laisse découvrir, qui vaut son pesant de cacahuètes. Elle va entrer en collision avec la Terre, et pour sauver la Terre, seule une mission menée par 2 astronautes et un complotiste peut réussir la gageure. Pendant ce temps, leur famille, leurs conjoints, leurs enfants tentent de trouver refuge dans une base militaire souterraine. Là aussi, c'est un grand classique, ça. On se demande tout le long du film d'où les scénaristes peuvent tirer une telle imagination pour écrire leur histoire et en même temps en faire si peu preuve d'imagination pour les scènes intimistes ou plutôt familiales qui sont un ramassis de clichés les plus éculés et risibles. Bref, le seul intérêt du film est de donner du travail à des centaines de personnes travaillant dans les effets numériques. Il faut savoir que le générique dure plus de 7 minutes. Car sinon, même en faisant preuve de la plus extrême bienveillance, on ne voit pas quoi sauver de ce qui peut cependant devenir un film culte en matière de nanar. Donc on veut dire que c'est un film catastrophe à tous les sens du terme, pillant ça et là de glorieux prédécesseurs. C'est le film à fuir cette semaine. Ça s'appelle Moonfall, en tous les cas dans ce que j'ai vu. Il y en a peut-être à fuir dans ce que je n'ai pas vu, mais Moonfall, c'est vraiment à fuir. Whitesnake, peut-être c'est à fuir, mais je ne l'ai pas vu. Whitesnake, c'est un film qu'on peut voir au Colisée, Mega CGR, Pâté Quincon, c'est un film d'animation japonais de Ji Zhao et Amp Wong. Alors, Ji Zhao et Amp Wong, c'est leur premier long-métrage, Donc, Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire, elle ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l'aider à retrouver son identité, mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s'avère que Blanca n'est vraisemblablement pas humaine. Bon, c'est un film d'animation, 1h38. Renaud Baronian, Le Parisien, le tout est numériquement animé de façon somptueuse, truffé de références graphiques à la culture traditionnelle chinoise. Whitesnake constitue une sorte de compilation idéale du genre. Sylvestre Picard en première, on n'oubliera pas de sitôt Whitesnake, surtout avec des personnages inoubliables comme son démon renard, artisan au double visage. J'ai pas vu le film, donc je ne sais pas quel est ce personnage de démon renard, artisan. Stéphanie Belpèche, le journal du dimanche, ce récit d'aventure ambitieux procède à la fusion du romantisme tragique à la Tigre et Dragon et du film d'arts martiaux avec magie et créatures fantastiques dans la grande tradition des productions de la Shaw Brothers des années 60. Xavier Lerper dans l'Obs, la mise en scène époustouflante souvent, ce qui n'est pas souvent le cas dans les productions made in China. Seul le graphisme trop industriel manque de relief, mais tous les thèmes, le pouvoir absolu, la folie religieuse et l'homosensualité féminine sont bien présents. Man Movie, François Co. L'action, la direction artistique, les jeux de couleurs envoient du plan enchanteur par généreuse poignée. C'est scénaristiquement que le bas blesse, par cette accumulation frénétique, de péripéties de personnages. Vincent Poli, cahier du cinéma, White Snake, n'envisage la légende des deux sœurs serpents comme un showroom d'animation 3D qui accumulerait jusqu'à l'overdose, la faute à un scénario dispendieux, tous les symboles de la pop culture fantastique. Voilà, moi j'ai pas vu, je suis pas du tout fan d'animation et encore moins d'animation asiatique. White Snake, Colisée, Méga CGR, Pâté Quinconce, il doit bien même y avoir de la VO au Colisée, c'est bien possible. Allez, hop, petite pause avant de parler de Marry Me, eh bien une chanson, Marry Me, avec Jennifer Lopez comme interprète et Maluma. Maluma, c'est un garçon. Et donc, Marry Me sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et voilà, c'est parti, Marry Me.
Baby, you're my shelter, shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. True love got a ring, ring, ring. Church bells got a ring, ring, ring. This queen need a king, king, king. For life, for life, for life. True love got a ring, ring, ring. Church bells got a ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight. Baby, I'ma fly out to Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, no, they never. It's forever, ever, 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 ever. Ain't nobody do it better, better, better. And it's only getting better. True love got a ring, ring, ring. Church bells let him ring, ring, ring. You the queen, I'll be the king, king, king. For life, for life, for life. Let a ring, ring, ring. Church bells let them ring, ring, ring. Angels gonna sing, sing, sing. Tonight, tonight, tonight. Baby, marry me, marry me, say yes. Marry me.
Marry Me, Jennifer Lopez et Maluma. C'est un film dont on parle dans 5 minutes. Les Vedettes, c'est le moment d'en parler. Les Vedettes, c'est un film français de Jonathan Barré, durée 1h41. Jonathan Barré, c'est un réalisateur, scénariste, acteur. Et il a à son actif en 2016 La folle histoire de Max et Léon, avec déjà David Marseille et Grégoire Ludig. Et puis il a réalisé, il continue de réaliser des épisodes de séries télé comme Nos chers voisins ou La petite histoire de France. Voilà pour Jonathan Barré. Le film dure 1h41, donc je l'ai déjà dit, Les Vedettes. Et c'est Daniel, un chanteur raté, qui travaille dans un magasin d'électroménager, prêt à tout pour rembourser ses dettes et retrouver... sous les feux des projecteurs, et se retrouver sous les feux des projecteurs, il décide d'utiliser Stéphane, un collègue naïf et prétentieux, pour participer à des jeux télévisés. Alors oui, tout les oppose, mais ça ne sera pas de tout repos. Daniel et Stéphane sont pleins de ressources. Cinématiseur Ronan Crowe, le Palmachot, étonne avec une comédie sociale, drôle et amère, sur deux losers en quête de reconnaissance, brillant et terriblement attachant. Jacques Mandelbaum dans Le Monde, le film réussit une satire de la grande distribution et des jeux télévisés. Yves Jéglet dans Le Parisien, le duo Grégoire Ludig et David Marsay réussit un deuxième film hilarant, tendre et critique sur l'univers de la télé et de la surconsommation. Première, Mathilde Trosselier, musique, humour, émotion, tout est dosé, ça se sent. Seul bémol, la réalisation qui pour le coup peine à sortir des clous du Palmachot, comme l'y inviter à le faire plus spontanément, la folle aventure de Max et Léon. Barbare Théâtre, le journal du dimanche, certaines répliques font vraiment rire, mais la mise en scène manque d'inventivité pour soutenir le rythme de la comédie. Nicolas Chaleur dans Le Nouvel Ops, ou plutôt dans L'Ops, pardon, digne héritier des inconnus quand il s'agit de parodier les clips musicaux ou d'épingler les tics de l'époque, ils savent mieux faire court que long. Mal rythmé, pas assez mordant, leur deuxième film oscille entre une satire convenue de la télévision et un buddy movie, plein de tendresse pour le loser qui sommeille en chacun de nous. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, Grégoire Ludig et David Marsay sont à leur meilleur dans leur sketch parodique, ce long métrage poussif et inabouti qui tacle le cynisme de certains producteurs, le confirme, malgré quelques gags réussis. Eh ben oui, je suis absolument d'accord avec les dernières critiques. Donc c'est une comédie satirique type buddy movie sur l'univers des jeux télé et des émissions de télé-réalité mettant en scène deux parfaits losers, cons, et pas que sur les bords d'ailleurs, et tous deux employés d'une chaîne de produits électroménagers style Darty Boulanger, vous voyez un petit peu ça. Alors au départ, David et Stéphane, tous deux donc employés, se détestent, mais pour résoudre ses problèmes financiers, Stéphane va chercher à utiliser un don très particulier de Daniel. Il connaît par cœur le prix de tous les produits électroménagers du magasin. Et après avoir été licencié, eh bien Stéphane croit avoir trouvé une solution à ses problèmes et à ceux de Daniel, car Daniel a aussi des problèmes d'entendre participer à des jeux télévisés. Alors, l'un va participer à une sorte de juste prix, l'autre à un ersatz de n'oubliez pas les paroles. Alors, si vous connaissez les jeux télé, ça vous dit quelque chose, sinon ça ne vous dit rien du tout. Alors c'est, moi je trouve que c'est un sujet partiellement gâché par un scénario trop léger, trop lâche et surtout des seconds rôles à quelques exceptions près. Hein, le fils rappeur, c'est à peu près la seule exception qu'on pourra citer. Et les seconds rôles, ils sont vraiment extrêmement médiocres, tant au point de vue de l'écriture qu'au point de vue du jeu. Alors certes, on retrouve, et c'est de loin, et les critiques l'ont souligné, le meilleur du film, les savoureuses parodies qui ont fait le succès du Palmachot. Alors certaines sont hilarantes, par exemple le clip, d'autres sont à peine au-delà de la réalité, comme par exemple la parodie de l'émission type Loft, ange de la télé-réalité. Voilà. Mais entre ces parodies, le film manque souvent de punch et connaît de sévères, très sévères baisses de régime avec ses deux héros, sorte de Dumb and Dumber français, idiots, imbus d'eux-mêmes, naïfs, forcément attachants face à un univers de gens de la télévision qui ne songent qu'à faire de l'audience à leur détriment, des producteurs cyniques, des présentateurs odieux d'ailleurs. La satire manque souvent de mordant, j'ai trouvé, et la réalisation est d'une platitude absolue. Le format court me paraît davantage convenir au talentueux duo du Palmachot, Grégoire Ludig et David Marsay. Donc c'est, je dirais, une demi-déception, les vedettes. Et le film n'a pas très très bien démarré, il faut bien le reconnaître, en termes d'entrée mercredi. Voilà, Marry Me, ben on en parlait il y a un instant avec la chanson de Jennifer Lopez. Eh bien, c'est le moment d'en parler, de Marry Me. C'est un film de Kat Coiro, ou Coiro, je ne sais pas comment on doit dire, réalisateur, plutôt réalisatrice et productrice américaine, qui a à son actif des courts-métrages, des épisodes de séries, et puis des films qui n'ont jamais eu les honneurs de la distribution en France, sauf éventuellement en DVD. Voilà. Marry Me, je vais pas vous faire tout le synopsis, juste le début. Kat Valdez, une star de la scène musicale. Kat, c'est Jennifer Lopez, hein. Une star de la scène musicale forme un couple hyper glamour avec sa future moitié, le jeune chanteur prodige Bastian. Alors que leur duo Marry Me, que vous avez entendu tout à l'heure, cartonne au box-office, les amoureux ont prévu de se dire oui pour la vie devant un parterre de fans déchaînés lors d'une cérémonie retransmise en direct. Dans la foule, Charline Gilbert, un professeur de maths divorcé qui chaperonne sa fille Lou, assiste bien malgré lui à l'événement. Mais quand Kat apprend quelques secondes avant la cérémonie que Bastien l'a trompée avec sa propre assistante, sa vie entière est remise en question. Elle entre alors sur scène, bouleversée, et c'est au moment où tout est sur le point de s'écrouler aux yeux de tous qu'elle se raccroche in extremis au visage d'un inconnu dans la foule. Et ce visage, bien entendu, c'est celui de Charlie Gilbert, à qui elle propose de l'épouser illico presto. Voilà, je ne vais pas raconter toute la suite parce que sinon, ça vous rentrait tout le film. La revue de presse, pas grand monde dans la presse s'est déplacé pour aller voir Marry Me. Si quand même Pauline Conrad sonne dans Le Parisien, Mary Me coche toutes les cases de la comédie romantique et ça fonctionne malgré quelques grosses ficelles. Olivier Delcroix dans Le Parisien, le seul atout de cette romance téléphonée entre une pop star et un prof de mathématiques consiste à mettre en valeur la plastique irréprochable, de G. Lo, qui à 52 ans veut en paraître 35. Owen Wilson joue les utilités en mode mineur. Dommage. Et oui, mais j'ai vu Mary Me, je l'ai pas vu en VO parce que le film proposé au Pathé Quinconce et au Méga CGR et au Pathé Quinconce, certains jours, il y a une séance en VO. Donc c'est une comédie romantique et comme l'a dit l'une des deux critiques que je vous ai citées, elle coche toutes les cases habituelles du genre et elle a une conclusion parfaitement prévisible. Alors, seul le point de départ est original, vous l'avez compris, donc cette histoire de Kat Valdez, star de la chanson qui a prévu d'annoncer son mariage avec son fiancé Sébastien, c'est un jeune chanteur latino là en pleine ascension. Et avec qui elle vit une histoire d'amour et donc elle a prévu de raconter, enfin d'annoncer son mariage en direct lors d'un de leurs shows. Et là, elle découvre donc au dernier moment que Bastian la trompe avec son assistante et évidemment bouleversée, elle décide dans l'improvisation du moment de demander en mariage un inconnu dans le public et ça tombe sur Charlie. Alors Charlie, c'est un obscur professeur de mathématiques venu au concert pour faire plaisir à sa fille. Alors tout ceci n'est absolument pas crédible, encore que aujourd'hui, il ne faut s'étonner de rien. Un truc comme ça pourrait bien arriver. Hein. Il y a bien une émission à la télé qui s'appelle « Marié au premier regard » qui fonctionne pratiquement sur le même principe. Mais bon, c'est le point de départ d'une romance basée sur le principe de l'opposition de deux milieux qui n'ont rien à voir, le show business et la vie normale d'un prof de maths. Et puis l'attirance des contraires, car évidemment, ce coup de tête va devenir une histoire d'amour, bien sûr, occasion de montrer ce qui est aujourd'hui aussi est la vie quotidienne d'une chanteuse célèbre, obligée d'être présente en permanence sur les réseaux sociaux, d'y faire le buzz, cornaquée du soir au matin par toute une foule d'assistants qui l'éloignent de toute réalité. Donc voilà, ça c'est un aspect du film qui est assez intéressant parce que je pense que c'est assez proche de la réalité de ce que peuvent vivre des Rihanna, Katy Perry, etc., etc. Donc ces grandes stars américaines. Le film est surtout un support pour montrer Jennifer Lopez sous toutes les coutures et force est quand même de constater qu'elle est sacrément bien conservée à plus de 50 ans et qu'elle est glamour encore à souhait. Son couple formé avec le séduisant Owen Wilson est d'ailleurs plein de charme. Mais bon, toute l'histoire est convenue, prévisible, cousue de fil blanc. Elle est faite pour faire rêver. Bon, c'est une histoire naïve, faite pleine de bons sentiments, de leçons de vie aussi, par exemple, sur la confiance à avoir en soi. Et puis, c'est parsemé de chansons de Jennifer Lopez destinées à devenir des hits. Voilà, c'est un film à voir éventuellement un amoureux pour la Saint-Valentin, ça tombe bien, c'est lundi la Saint-Valentin. Voilà, Mary Me, Colisée, Méga CGR, et, pardon, pas Colisée, Méga CGR et Pathé Quinconce, avec de temps en temps, mais même pas de temps en temps, tous les jours, une VO au Pathé Quinconce. Voilà, dernier film de notre semaine, c'est Boulado. Boulado, c'est un film de Etche Janga. Alors, Etche Janga, me demandez pas qui il est, c'est, je crois, son premier long métrage, et c'est un, malgré son nom, quelqu'un d'origine néerlandaise. Voilà, Etche Janga, 1h26, le film Boulado est proposé par Le Colisée, et je pense qu'il est proposé uniquement en version originale. Voilà. Alors, de quoi est-il question dans Boulado ? Kenza, 11 ans, vit sur l'île de Curaçao, avec son père et son grand-père, deux hommes que tout oppose, entre modernité et respect des traditions spirituelles ancestrales. La jeune fille tente de faire le deuil de sa mère, qu'elle n'a jamais connu, et de trouver son propre chemin. Alors, Le Figaro déclare que c'est une quête spirituelle tout en délicatesse pour laquelle on regrette une certaine longueur. Et pourtant, ça fait 1h26 quand même. Hein. Baptiste Thion, le journal du dimanche, si le conflit entre modernité et mystique n'a rien de nouveau, comme les querelles générationnelles qui l'entourent, ce joli film séduit par son approche poético-sensorielle. Hélène Marzoff, dans Télérama, dans ce film singulier, peu bavard, les émotions s'expriment à travers les éléments. L'espace alentour vibre, la nature se déchaîne, la maison littéralement animée par le souffle du vent possède sa propre force. D'où une chronique d'émancipation sensible, un récit sensoriel qui rend hommage aux coutumes afro-caribéennes et au pouvoir de l'invisible. Nicolas Chaleur dans L'Obs, le début et la fin, 10 minutes à tout casser, sont envoûtants. Entre les deux, le temps est long, le dépaysement ne pouvant rien contre le sentiment de voir un sujet de court-métrage étiré sur la longueur, et de belles images sans auteur. Bon, je n'ai pas vu Boulado, et Boulado, c'est un film qu'on peut voir au Colisée, uniquement au Colisée. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on appelle une sortie technique, parce qu'il y a eu très peu de copies sur Paris, d'ailleurs 3-4 copies sur Paris et la région parisienne, et puis on en a une au Colisée. Voilà, allez, avant de vous annoncer les avant-premières et les films de la semaine prochaine, ah, je me fais un petit plaisir, on va écouter Toto, Africa, et oui, on entend ce titre en partie dans le film Moonfall, c'est maintenant sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, I Blaze the Rain Down in Africa, c'est sur Radio Alpa.
Some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you.
Oui, alors petit problème technique, hein, donc on va recommencer avec Toto là, tout de suite. Hop. Ben non, Toto ne veut pas partir, donc je vous annonce déjà les films à l'affiche la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Les avant-premières, il y en a quand même quelques-unes. On commence par l'avant-première dimanche du film King à 13h30 au Méga CGR. King. Sur Radio Alpa 107.3 FM, on n'entend plus de musique, mais c'est pas grave, si on n'entend pas, c'est l'essentiel. Donc, King, dimanche, à 13h30 au Méga CGR. Dimanche, il y a encore aussi d'autres avant-premières, c'est Hopper et le Hamster des Ténèbres, un film d'animation. Alors, c'est 11h15 au Méga, 13h30 au Colisée. Lundi, vous avez le choix, soit Maison de retraite à 20h30 au Colisée, soit vous pouvez aller voir Alors on danse avec la présence de Michel Larocque qui vient proposer le film à 20h30 au Méga CGR. Prudent de réserver quand il y a des vedettes qui viennent comme ça. Et puis mardi, c'est l'avant-première un peu partout de Uncharted. Uncharted, c'est un film d'action avec Mark Wahlberg notamment. Alors c'est 20h05 au Méga, 20h au Pathé, 20h30 au Colisée. Voilà. Sinon, les films à la fin de la semaine prochaine. Eh bien, on aura donc La Vraie Famille avec Mélanie Thierry. Uncharted, donc Un Autre Monde de Stéphane Brisé, ça me paraît assez intéressant. After Blue, Paradis Sale de Bertrand Mandico, ça sera au cinéaste. King, donc ça c'est plutôt un film pour enfants, et ça va être Lyon. Maison de retraite et Hopper et le Mystère des Ténèbres. Voilà pour ce qui est des programmes annoncés pour la semaine prochaine. Et sur cette semaine, eh bien, moi, ce que je vous recommande, je dirais que Enquête sur un scandale d'État, si vous ne voulez pas voir de film d'action, mais un film intéressant, sur le fond, en tous les cas. Voilà, si vous êtes un fan absolu de Marguerite Duras, vous ne pouvez pas rater, vous ne désirez que moi, ça c'est sûr et certain. Et puis, pour le reste, bof. Voilà, donc c'est sur ces bonnes nouvelles, ces bonnes paroles, que je vous souhaite une excellente semaine cinématographique et que je vous dis à la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.